Agnès de Sarre, Christine Orban et Marianne Rubinstein.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
Il est bientôt 15h04. On retrouve là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Un seul message. Mais alors, quelle analyse. Putain, le repas de famille, c'est génial. Super. Pour une salure, ça, j'adore. Allez, ciao, vivo.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG, c'est Antoine le Québécois Minervois qui vous appelle pour vous parler des grèves étudiantes au Québec hein, qui durent depuis le mois de février. Il y a encore le tiers des étudiants du collégial et des universités qui sont en grève et on n'en parle pas assez ici, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si tu en as parlé dans ton émission Daniel parce que je ne peux pas l'écouter tous les jours. Mais bon, aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais un peu frustré d'entendre aux affranchis, même Isabelle Giordano, lancer le sujet avec Charles Bois et Denise Bombardier. Et finalement, ils se sont mis à parler du combat de boxe entre deux politiciens canadiens. Ça n'avait aucun rapport. Ils auraient pu utiliser cette tribune pour en parler. Ça fait un peu chier. Alors, ouais, j'aimerais ça qu'on en parle un peu, qu'on informe les gens de ce qui se passe là-bas. Alors, merci et à bientôt.
Bonjour, c'est Franz de Bâle en Suisse. J'entendais hier soir Nicolas Sarkozy dire que les centrales nucléaires suisses avaient 60 ans. C'est faux! La plus ancienne, Betznau 1, a 42 ans. Et la Suisse a décidé de sortir du nucléaire. Merci.
Bonjour, comme tous les premiers vendredis du mois, le Cotopo accueille un rendez-vous des amis de là-bas si j'y suis. Ce mois-ci, le thème sera « Mieux comprendre les enjeux politiques de la dette publique » avec le collectif d'audit citoyen de la dette publique du Rhône. Rendez-vous donc ce vendredi à 20h30 au Cotopo, 14 rue René Lénaud, dans le 1er arrondissement de Lyon. À bientôt.
Bonjour, c'est Jamila de Paris. Bonjour à l'équipe de la base si j'y suis. Bonjour à Daniel. Je voulais vous rassurer et surtout vous remercier très chaleureusement pour cette chaîne de solidarité qui s'est formée après mon appel et votre grande générosité, votre empathie. Tous les mails que j'ai reçus m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Nous sommes sortis d'affaires et vive la vie, le combat continue. Et voilà, ne baissons pas les bras surtout et restons toujours solidaires les uns des autres. Je vous embrasse tous très très fort, chacun et chacune, et je vous remercie de tout mon cœur et mes enfants également. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe. Au revoir.
Alors, le faux problème de l'évasion fiscale. Bon, c'est un cercle vicieux comme la drogue, à mon avis. Si le fisc français était plus adulte, si on pouvait comprendre que plutôt que de faire fuir tous les riches à l'étranger, ce qui est en train de se passer, soit dit en passant, en leur fichant la trouille et en les souvent persécutant, voire Aznavour il y a 40 ans, plus tous les autres, les grands patrons, etc., par une taxation excessive et qui change tout le temps, et une mentalité carrément punitive, alors qu'en fait rien n'interdit de vouloir protéger une partie de ses revenus d'un pays qui est l'argent et les riches, il suffirait d'accepter une solution qui est proposée par la Suisse elle-même et appliquée par différents pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne. La France a refusé, hein. Ça consiste à respecter l'anonymat des gens, mais tout en les faisant payer par une taxe de pays à pays, à la source. Hein. Et à ce moment-là, les Bettencourt et autres, qui ne demandent qu'à acquitter ce genre de choses, à condition qu'on les laisse déposer ce qu'ils veulent dans un pays qui est neutre et qui est bien plus sûr que le nôtre, toujours prêt en plus à assommer, quand c'est pas guillotiné, c'est riche. Et en post-scriptum, le secteur bancaire, ça représente seulement 5 à 6% hein, du PIB suisse. Alors, toutes ces attaques contre la Suisse, c'est souvent vraiment totalement déplacé. Je regrette qu'il n'ait pas l'occasion de s'exprimer plus souvent. Mais comme ce sont des gens discrets, ils ne le font pas. Voilà.
Voilà un très beau plaidoirie en défense des riches habitants que vous êtes, françaises, français, AMG, AMGE, S, d'un pays qui est l'argent et les riches qui sont ses persécutés et ses victimes à la veille d'une élection possible d'un président socialo-communiste, à n'en pas douter. Merci quand même pour ces précisions et ce point de vue tout à fait intéressant. Cher AMG, aussi merci à Jamila de vous des remerciements qu'elle vous adresse, vous qui l'avez soutenue il y a quelques jours, et elle est toute contente et ça l'a bien aidée et soutenue, et des liens d'amitié se sont établis entre elle et certains auditeurs. Formidable, bravo, vous êtes formidable, il y avait une émission jadis comme ça. Aujourd'hui, on est toujours avec à la recherche de ces 600 milliards qui manquent à la France. C'est le titre du bouquin d'Antoine Paillon sur l'évasion fiscale. Hier, Antoine Paillon a expliqué de quoi il retourne, ce scandale absolument monstrueux qui dure depuis des années dans le cadre de la persistance des paradis fiscaux. On annonce régulièrement, c'est la fin des paradis fiscaux, c'est la fin des paradis fiscaux. Pinocchio commence à ne plus nous faire rire et il risque de sortir de la scène sous peu, sous les sifflets. L'évasion fiscale, c'est un véritable crime contre la société, contre l'intérêt général, surtout dans le cadre de la crise, entre guillemets, crise de la dette publique que nous vivons et que nous affrontons et que nous risquons d'affronter dans les temps prochains encore plus durement. Voilà, l'existence de cette évasion fiscale est claire, toutes les recherches sont faites, les services de toutes sortes, de douanes, de police, de services de renseignement, etc., ont fait leur boulot, on sait qui, on sait comment, on sait quels établissements bancaires, essentiellement pour ce qui nous concerne et nous intéresse aujourd'hui, la grande banque suisse, UBS, reste que c'est coincé. Les plaintes n'aboutissent pas, ça a bloqué il y a très peu de jours, enfin, non pas des poursuites, mais des enquêtes sont ouvertes vis-à-vis de cette banque UBS telle qu'elle est en France, et une commission d'enquête sénatoriale s'est mise en place. Alors les uns disent, oh, wouf, ça va être encore du bidon, ça va encore s'enfoncer dans les marécages. D'autres, au contraire, qui luttent depuis très longtemps contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale, voilà quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer, surtout que, on le disait hier, on va le redire aujourd'hui, le gouvernement américain, états-unien, part en guerre contre l'évasion fiscale. Alors aujourd'hui, on retrouve Antoine Paillon, donc l'auteur de « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». On est aussi avec Éric Bocquet, sénateur du Nord, et Xavier Harel, qui est journaliste et qui est l'auteur d'un bouquin sur les paradis fiscaux, « La grande évasion ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Le prochain repère de là-bas, si j'y suis, aura lieu le lundi 7 mai à 18h au restaurant La Lanterne, commune du Carbet, dans le Nord Caraïbe, en Martinique. Le thème retenu pour cette rencontre, le travail. Nietzsche, Marx, Proudhon, Engels étant hors du département, nous nous contenterons de l'introduction de Stéphanie, Fabien et Mathieu. Voilà, lundi 7 mai, 18h, à La Lanterne. Et l'on boira une coupe pour le départ de l'autre. Salut, à bientôt.
C'est un facteur très important de ce qui est relevé par tous les économistes, maintenant depuis quelques années, mais surtout ces toutes dernières années, qui est la croissance des inégalités. D'un côté, une croissance extraordinaire de l'hyper-richesse. Parce que l'évasion fiscale est un outil d'augmentation de l'hyper-richesse.
L'évasion fiscale, c'est le fonds de commerce de la Banque Suisse. Ils vivent de ça depuis des siècles. Ils vivent de nos impôts. Il faut que la Suisse arrête de nous voler. Il faut leur rentrer dedans.
Et puis dans le feuilleton Liliane Bettencourt, il y a ces informations communiquées hier par un banquier suisse dont on ignore l'identité. Selon lui, la femme du ministre Eric Woerth a été presque à demeure à Genève où elle gérait les comptes bancaires de l'héritière de L'Oréal.
Prenons un exemple, l'Espagne, la Grèce, l'Italie seraient dans une des situations bien moins graves qu'ils connaissent en ce moment s'ils avaient plutôt lutté contre l'évasion fiscale au sein de leur propre pays. C'est une évidence.
L'évasion fiscale, toute confondue, est certainement un manque à gagner de 30 à 40 milliards d'euros chaque année.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Antoine Payon, Éric Boquet, Xavier Harel. De l'argent, il y en a. Flight number 2, arriving from New York. Eh bien, on va passer une heure très agréable ensemble, amis auditeurs, inquiets par la crise, vous qui redoutez et souffrez des mesures d'austérité qui s'installent en France, des plans de sauvetage et autres règles d'or, c'est-à-dire toute cette lutte contre les déficits publics, eh bien, on a la solution avec mes trois invités aujourd'hui. On sait où est l'argent. On sait où est l'argent. En tous les cas, Antoine Payon a une idée. A une idée, à en croire le titre du bouquin qu'il sort ces jours-ci au Seuil, c'est 600 milliards qui manquent à la France. La couverture représente une valise métallique qui probablement contient les 600 milliards avec cette mention « Enquête au cœur de l'évasion fiscale ». On va l'épauler avec un autre journaliste, Antoine Payon est journaliste et reporter au journal La Croix, avec un autre journaliste qui s'appelle Xavier Harel, qui lui aussi s'est penché sur ces questions de paradis fiscaux et qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « La grande évasion » qui est sorti il y a déjà un certain temps, qui ressort en livre de poche. Et puis on a avec nous Monsieur Éric Boquet, qui est sénateur du Nord et qui est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale au Sénat. Figurez-vous qu'au Sénat, on s'est dit « Tiens, on va quand même s'intéresser à l'évasion fiscale ». Alors, Antoine Payon, c'est 600 milliards qui manquent à la France, c'est le bouquin qui sort ces jours-ci, ça fait pas mal de bruit, c'est un bouquin qui a été écrit vite, c'est comme un long papier, hein, c'est comme un long reportage, mais c'est tout frais, parce que ça fait référence à des événements tout récents. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 600 milliards qui manquent à la France?
C'est une somme de deux grands blocs. Les avoirs, c'est-à-dire en fait le capital des personnes physiques, comme vous et moi, des personnes privées, qui est estimé par toutes mes sources à hauteur de 220-230 milliards d'euros au minimum, on y reviendra, hein, c'est un minimum, et 370 milliards qui avaient été calculés par d'autres confrères, notamment d'Alternatives économiques, il y a de ça maintenant deux ans, pour ce qui concerne les groupes, les entreprises, petites et moyennes, qui ont les mêmes pratiques d'évasion fiscale. Au total, c'est 590 milliards, on a arrondi à 600 milliards pour le titre, mais à mon avis, ça n'est pas une surestimation, loin de là. Cette estimation est une estimation minimum très exacte.
Voilà. Alors, 590 milliards d'euros placés en Suisse, au Luxembourg, à Singapour, dans les îles Caïmans et d'autres paradis fiscaux, et au moins 30 milliards d'euros qui manquent en conséquence chaque année aux finances publiques. Ça, donc, quand on parle d'une crise de la dette, on a plutôt là une crise de la recette, plus qu'une crise de la dette.
Bien entendu, en conséquence.
Bah, bien entendu, mais vous êtes révolutionnaire en disant ça. Tout le monde reconnaît qu'on a une dette, qu'on a une crise de la dette, et qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut être solidaire, et qu'il faut prendre un tas de mesures, qu'on doit faire des efforts, et que c'est pas le moment, et qu'il faut tout vendre
à la dette. Ouais, mais c'est d'autant impressionnant, et je continue moi-même de prendre progressivement la mesure de ce que ça représente. C'est 20 à 30 milliards d'euros qui manquent au fisc français du fait de l'évasion fiscale. C'est le dernier bout de la fraude fiscale. L'évasion fiscale est incluse dans la fraude fiscale qui comprend d'autres techniques pour échapper au fisc. Et les fraudes en général, comprenant les fraudes sociales, notamment du patronat qui, par exemple, ne déclare pas le travail. Mais ces 20 à 30 milliards, c'est le petit bout de ce qui manque au fisc français. Ça représente déjà, de toute façon, une part considérable de ce qui manque annuellement en déficit budgétaire au budget de l'État. Les rapports, on peut les faire. Mais mes calculs ont produit la chose suivante. C'est que l'évasion fiscale, tout confondu, ça représente un manque à gagner pour le budget de l'État équivalent à celui du budget de l'éducation nationale. Un sixième du budget de l'État.
Johnny Hallyday a retrouvé la scène hier soir à Los Angeles. Premier concert depuis ses ennuis de santé graves il y a 2 ans.
TF1.
Seule fausse note en marge de cette belle soirée, le redressement fiscal qui vise la star. 9 millions d'euros tout de même. Johnny Hallyday a réservé sa première réaction à TF1. Écoutez-le.
25 avril 2012.
Bah, s'il faut leur donner 9 millions d'euros, il va falloir qu'ils attendent parce que je les ai pas.
J'aimerais qu'on me foute un peu la paix. Et qu'on me laisse faire mon métier tranquillement. Quoi. C'est ce que je sais faire de mieux, alors qu'on me laisse faire mon métier.
Voilà, parce que là, par exemple, aujourd'hui, on a sous les yeux le canard enchaîné, il faut bien le dire, et on voit que le fisc réclame 9 millions à Johnny. Johnny Hallyday est poursuivi pour 9 petits millions qu'il a oublié de déclarer. Bon, on se dit, ah, ben, ils sont comme ça, voilà, oh, ils gagnent beaucoup d'argent. Après, chacun se dit, bon, après tout, je serai à sa place, je ferai la même chose. On se dit, bon, voilà, c'est des artistes, c'est pas bien, moralement, c'est condamnable, mais enfin, on voit pas le détriment, ce que vous soulignez tout de suite, ce qu'on voit tout de suite. Voilà, cette comparaison avec l'éducation nationale, c'est que cette tricherie qu'est l'évasion fiscale s'opère au détriment du bien commun. Si c'est pas Pierre qui paye, c'est Paul qui paye.
C'est un facteur très important de ce qui est relevé par tous les économistes, maintenant depuis quelques années, mais surtout ces toutes dernières années, qui est la croissance des inégalités. D'un côté, une croissance extraordinaire de l'hyper-richesse, parce que l'évasion fiscale est un outil d'augmentation de la richesse. Quand vous êtes très riche et que vous évadez une partie de votre richesse ou de votre fortune, elle va avoir un produit de l'ordre de 7,5 à 10%
c'est ça, cet argent ne dort pas, contrairement à ce qu'on croit. Cet argent travaille, entre guillemets.
Il est très bien placé. Et en plus, comme il n'est pas fiscalisé, comme il ne paye pas d'impôts, il a déjà un rendement double d'un placement qui se ferait en France et qui paierait d'une part l'impôt sur le revenu et éventuellement l'impôt sur la fortune. Donc c'est un placement à rendement record. Et ça participe de créer ce qu'on appelle l'hyper-richesse qui est en croissance en France. J'ai les chiffres sous les yeux. On est sur l'ordre de 18% à 20% de la croissance de cette hyper-richesse en France. Hyper-richesse qui représente la fortune de 0,01% de la population. Elle est sous nos yeux. On n'a jamais vu en France, par exemple, autant de voitures extrêmement chères, de produits extrêmement chers, de consommation d'une toute petite population, de produits extrêmement chers. En regard de ça, on a une croissance de la pauvreté. C'est une question de vase communicant.
C'est ça, voilà.
Eh bien, moi je dis que, mes sources, les économistes expliquent que l'évasion fiscale est un outil très très perfectionné de croissance de cette inégalité.
We should fight it for freedom. We should fight it for rule. We should fight it for ethic way of life. Spend the time fighting for
money, money, money.
Penny.
Money, money, money.
Euro.
Money, money, money.
Dollar. Sans oublier les francs suisses.
Money, money, money.
Satan.
Money, money, money.
Dinar.
Money, money, money.
Copec. Sans oublier le franc suisse.
Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent.
Money, money, money.
Penny.
Money, money, money.
Euro.
Money, money, money.
Dollar. Sans oublier le franc suisse.
Money, money, money.
Copec.
Money, money, money.
Francis.
Pas le temps de souffler pour UBS. Après les États-Unis, un nouveau front s'ouvre en France.
TSR.
La banque est soupçonnée de fraude ou encore de blanchiment en bande organisée.
14 avril 2012.
Forfait passible de 5 ans de prison et de 750 000 euros d'amende. Les enquêteurs auraient réuni des éléments accablants. UBS profitait d'événements organisés par la banque dans des golfs ou de prestigieuses salles de concert. Et la banque fournissait des directives précises à ses collaborateurs pour leur éviter de se faire pincer.
Monsieur le sénateur Éric Bocquet, sénateur du Nord, dans un texte que vous avez publié, vous avez pour titre « Avec la bienveillance du gouvernement, avec la bienveillance du gouvernement, des sommes considérables échappent à l'impôt ». Et vous dites un petit peu plus loin, je vous cite, « Des estimations évaluent en effet à quelque 50 à 80 milliards d'euros, vous n'êtes pas à 30 milliards d'euros près dans le Nord, 50 à 80 milliards d'euros par an, le montant des pertes de recettes fiscales et sociales dues à la fraude, somme à rapprocher des 80 milliards d'euros de déficit pour 2012. C'est énorme ce que vous écrivez là, et c'est tellement énorme qu'on se dit, mais attendez, on n'est pas en ce moment dans une compétition électorale, présidentielle et bientôt législative. Et ces histoires-là pourraient quand même avoir intéressé les candidats. Ben non, il semble pas que cette histoire d'évasion fiscale passionne beaucoup nos candidats. Pourquoi vous êtes intéressé à ça ?
Alors, nous ne savions pas, quand notre groupe a fait cette proposition au Sénat de création de cette commission d'enquête, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le droit de tirage des groupes parlementaires au Sénat. Chaque année, chaque groupe a le droit de proposer de créer une commission d'enquête, par exemple. On a choisi ce sujet-là. C'était à la mi-janvier. Pour quelle raison ? La première raison, c'était de casser l'idée que l'on nous rabâche régulièrement chez nos gouvernants, à savoir qu'il n'y a plus d'argent, que nous vivrions au-dessus de nos moyens, qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites, pour l'école, pour les grands besoins sociaux. Madame Pécresse, dans le débat budgétaire au mois de décembre, répétait à l'envi « il n'y a pas d'alternative ».
Ah, ça c'est connu.
C'est connu.
Oui, c'est traduit de l'anglais, ça.
Oui, c'est ce que Thatcher disait, voilà, qui lui a valu le surnom de Tina, « There is no alternative », vous savez ça. Voilà, donc on voulait casser cette idée, casser la résignation, parce qu'on enferme les gens depuis des décennies dans cette idée qu'il n'y a plus de solution pour améliorer le sort du monde. Quoi. Voilà, donc la première idée de cette commission, c'était ça. Montrer qu'effectivement, il y a de l'argent à portée de main, sans inventer des mesures extraordinaires. Donc il y a de l'argent dans ce pays, dans le monde. Donc nous voulions d'abord montrer ceci. Deuxième idée que nous voulions, qui nous motivait, c'était de remettre à la place les vrais fraudeurs. Puisqu'on nous met toujours en avant les fraudeurs au RSA, par exemple, enfin, des propos scandaleux qu'on entend. Quand on rapporte les sommes impliquées à celles qui viennent d'être évoquées, ça n'a pas de commune mesure. Ça n'a pas de commune mesure. Et ce sont ceux qui mettent à l'index les bénéficiaires, entre guillemets, du RSA, et qui pratiquent d'un autre côté l'évasion et qui tiennent des discours scandaleux. Donc voilà, donc on ne savait pas à la mi-janvier que le sujet ferait un peu irruption dans la campagne, mais vous avez raison, c'est vrai que ça n'est pas devenu un enjeu central, mais néanmoins, le sujet a fait irruption. Ça a été évoqué, effectivement, M. Sarkozy a faim un jour de découvrir que les entreprises du CAC 40 ne payaient que 8% d'impôts sur les sociétés, quand tous les autres, le boulanger de ma rue, il paye 33% et il a des difficultés à vivre. Voilà, on est dans l'hypocrisie absolue. Donc il fallait absolument casser cette hypocrisie, faire la vérité, faire la lumière et tenter au moins d'approcher de la vérité des chiffres qui, par définition, ne sont pas inscrits aujourd'hui dans des registres officiels. Voilà, les ordres de grandeur que l'on cite, 40, 50 milliards de recettes perdues dans le budget, certains disent que c'est un minimum. Il faut quand même ramener ces chiffres au budget de la nation, 272 milliards chaque année. 50 milliards, c'est pratiquement ce que rapporte l'impôt sur le revenu que l'ensemble des Français, en tout cas les contribuables, payent. Donc voilà, voilà la motivation. Elle n'était pas du tout politicienne, elle n'était pas du tout court-termiste. D'ailleurs, le dossier va continuer de vivre après les élections, quelle qu'en soit l'issue. Il faut que les gens prennent conscience de ce monde parallèle de la finance dérégulée, mais qui a quand même ses règles, clandestines, obscures, et qui tourne le dos aux grands besoins du monde, quoi. Voilà. C'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'il faut placer la barre. Ça va pas se régler en 24 heures, mais il faut faire un sujet politique de cette affaire, est un sujet citoyen. Donc il faudra que nous communiquions, c'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous continuerons de le faire, pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe.
Mais dites-moi, l'histoire des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, c'est une vieille histoire. Est-ce que c'est la première commission d'enquête qui se penche sur ce sujet?
Ben, on a recherché dans les archives du Sénat. Enfin, moi, je suis nouveau sénateur, j'ai été élu l'an dernier. Mais on a découvert que notre groupe communiste, à l'époque, en 72, il y a 40 ans exactement, avait fait la même proposition, quasiment dans les mêmes termes. Donc 40 années, mais voilà, 40 années, c'est la première fois, en tout cas au Sénat, que le sujet est abordé de cette manière. Évidemment, il faut y voir là-dedans la conséquence aussi du changement de majorité au Sénat. Oui. Cette proposition, si elle avait été faite par notre groupe dans une autre configuration avec la majorité ancienne, je doute qu'elle aurait été effectivement mise en place. Voilà, donc c'est aussi cette circonstance qui a permis, sur notre proposition, que cette commission soit constituée.
Alors dans son bouquin, Antoine Payon, les 600 milliards qui manquent à la France, explique le processus concernant la banque UBS, comment cette banque s'est installée des filiales en France en 1999-2000, comment un réseau s'est installé de commerciaux qui rentre en contact avec les personnes visées, des personnes extrêmement riches avec des patrimoines et des revenus très importants pour les séduire, les convaincre, d'abord d'ouvrir des comptes dans cette banque prestigieuse et ensuite de faire de l'optimisation fiscale et puis ensuite bon de mettre un petit peu l'argent hors de portée du fisc. Et C'est toute une mise en scène, mais il se trouve que un certain nombre, sinon la plupart, des collaborateurs de ces filiales implantées d'UBS en France n'étaient pas au courant, ne comprenaient pas à cause du fonctionnement même de l'entreprise, très fractionnée, très segmentée, n'avaient pas compris ce qui se passait au niveau, disons, de l'évasion fiscale, tout l'aspect évidemment hautement illégal de cette activité. Alors, description du procédé par Antoine Payon. Parmi les évadés fiscaux, on a évoqué Johnny, etc., il y a de très grandes personnalités. On va parler de l'une d'entre elles, peut-être la plus célèbre. Mais n'oublions jamais qu'il y a beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises multinationales qui procèdent exactement de la même façon, des banques elles-mêmes. Payon l'a dit en commençant, sur les 600 milliards, c'est à peu près la moitié qui concerne des grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, par exemple, font de l'évasion fiscale. C'est pas seulement des particuliers, même si la personne dont nous allons parler est entre les deux, est entre une personne et une très grande entreprise.
Vous êtes une très grande fortune. La famille Bettencourt, pour ne pas la citer, ou la famille Wildenstein. Vous souhaitez accroître encore votre fortune grâce à cet outil de l'évasion fiscale. Eh bien, vous faites évader à la barbe et au nez des douaniers votre fortune pendant 30 ans. Et puis, personne ne dit rien. Les choses s'aggravent progressivement. Eh bien, vous constatez en parallèle que ces mêmes grandes fortunes financent, à partir de certaines années, des campagnes électorales de certains. Et des gens qui sont...
Là, ça va, on comprend.
Vous comprenez?
Oui, là, on comprend.
Bon, on va être même un peu plus précis ensuite. Des gens qui travaillent sur ces sujets, je les ai cités tout à l'heure, notamment des policiers, eh bien, constatent, sont témoins du fait qu'il y a cette circulation d'argent circulaire. Beaucoup d'argent part en Suisse, ensuite dans d'autres paradis fiscaux, est géré, produit une nouvelle richesse, et une petite part revient sous forme d'argent liquide. Soit qu'on sort directement des comptes suisses, en Suisse même, et il y a pour ça des porteurs de billets, mais aussi de banques françaises par lesquelles reviennent le produit de l'évasion fiscale. Et que tout ça finit dans des enveloppes que l'on va distribuer chez soi, d'ailleurs ça se fait à domicile, auprès de personnalités politiques de très haut rang, à des périodes clés qui sont, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, ce que j'en ai vu avec les comptes Bettencourt, la période de l'élection présidentielle de 2007. Entre 2005 et 2007, mais beaucoup d'autres enquêtes le démontrent, on voit beaucoup d'argent liquide distribué au candidat Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2007 et à ses amis. Le nom de M. Woerth est souvent cité, le nom de M. Demestre est évidemment un nom tout à fait clé dans l'ensemble de ces affaires. Et mes sources policières, c'est les gens qui sont chargés de surveiller ça, sont catégoriques. Ils disent, on achète ainsi la possibilité de faire son évasion fiscale sans jamais être l'objet d'un contrôle fiscal, d'une enquête policière qui aboutit un jour à une instruction judiciaire et un jour au tribunal.
Alors sans être Madame Bettencourt, le commun des mortels très riches procède de la même façon. C'est-à-dire que je place mon argent dans un paradis fiscal et pour ne pas être faire l'objet des tracasseries du fisc français et de ses agents, je reverse à travers le premier cercle, par exemple, des généreux donateurs du parti du président de la République, eh bien je reverse quelque chose pour soutenir mon candidat.
Tout à fait. C'est un procédé parmi d'autres de ce qu'on appelle la corruption.
Ces 600 milliards qui manquent à la France, on est autour du livre d'Antoine Payon, on est aussi autour du bouquin de Xavier Harel qui ressort en poche, La Grande Évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux. Ce que vous décrivez, Antoine Payon, dans votre bouquin, c'est quand même la stratégie des agents du BS, de cette banque suisse, qui en France séduisent les fortunes, les personnes fortunées, pour les convaincre de faire de l'évasion fiscale. Ils ont des stratégies incroyables.
Oui, c'est stratégie, oui. Il y a au niveau, certainement, de la direction générale, et depuis très longtemps, dans les banques suisses, une véritable stratégie commerciale, puisque l'évasion fiscale représente au moins presque une dizaine de pourcents, 8%, me dit-on, du chiffre d'affaires. Donc c'est une partie
de la banque.
De la banque, de l'ensemble de ses activités pour la France. Hein, c'était pour la France. Quand UBS s'est créé il y a une dizaine d'années, en gros, le modèle économique de la banque supposait qu'il y ait presque une dizaine de pourcents de son chiffre d'affaires qui soit réalisé grâce à l'évasion fiscale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce chiffre d'affaires, le déficit est considérable, ce qui d'ailleurs se voit dans les comptes officiels de la banque. Donc il y a une stratégie parce que toute la banque suisse, mais peut-être pas seulement, est structuré sur le fait qu'il y a de l'évasion fiscale et que donc il faut l'alimenter très vigoureusement. Après, il y a aussi une autre dimension qui est celle d'un monde à part. Parce que certes, 120 commerciaux, c'est la liste qui a été définitivement établie en juin dernier, 120 commerciaux suisses viennent illégalement sur le territoire français pour démarcher les grandes fortunes.
Illégalement.
D'ailleurs, clandestinement. Sans carte de visite, avec des téléphones portables qu'ils peuvent saboter dès qu'ils sont contrôlés, sans aucun ordinateur portable portant la moindre donnée bancaire de leur clientèle. Tout un procédé d'agents secrets, le livre le raconte de façon détaillée. Eh bien, il faut qu'ils rencontrent ces grandes fortunes, mais les grandes fortunes en question vont à leur rencontre. Il y a parmi eux, par exemple dans les milieux du football, du sport professionnel, des sortes de parrains, des apporteurs d'affaires, c'est le mot officiel, des avocats, des gens qui fonctionnent dans une sorte de club. Et c'est toujours ce même club, le premier cercle, le Fouquet's. On retrouve à peu près tous les noms du Fouquet's parmi les gens qui sont soit les prospects, soit les clients du BS.
Tous ceux du Fouquet's, ce sont des évadés fiscaux.
Oh, tous ceux du Fouquet's, il faut peut-être être nuancé. Beaucoup d'entre eux sont nommés.
Antoine Payon parlait d'avocats qui servaient d'intermédiaires dans ces histoires. Il en est un célèbre. Il est aujourd'hui encore président de la République. C'est Nicolas Sarkozy qui, lorsqu'il était avocat d'affaires, emmenait tout un tas de riches clients en Suisse pour leur proposer d'ouvrir des comptes en Suisse. Ça a été établi, écrit, et ça n'a jamais été démenti. Notamment, le tennisman...
Lecomte.
Henri Lecomte, exactement.
Henri Lecomte.
A ouvert des comptes en Suisse sur les bons conseils de Nicolas Sarkozy, qui lui a présenté un financier qui s'appelle Jacques Ayer, qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde, et notamment une partie de la fortune d'Henri Lecomte. Donc, effectivement, les avocats jouent un rôle assez sensible, assez notable, dans toutes ces démarches, au-delà des banques, évidemment.
Alors, ça se passe d'ailleurs dans des conditions de mondanité très spectaculaires. C'est une centaine d'événements par an qui étaient organisés par la structure française du BS.
Qui étaient
des grands concerts. Qui était, parce que je pense que depuis juin dernier, depuis qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet, que la douane judiciaire s'est mise au boulot, et je peux vous dire que le boulot est extraordinaire. Il est évident qu'on a mis la pédale douce. Ceci dit, en juin dernier encore, à Roland-Garros, un commercial suisse qui est considéré comme étant en contact des plus grandes fortunes françaises était encore en train d'œuvrer. Et il a été d'ailleurs pris en flagrant délit par la douane judiciaire. Je pense que dans l'instruction, l'information judiciaire qui vient de s'ouvrir, ça sera un élément très très important. Mais donc, sans événement, grand concert, tournoi de tennis, de golf, dîner gastronomique, on est là quand même dans un monde très heureux.
Une information judiciaire a été ouverte sur la filiale française de la banque suisse UBS.
RTL.
Des démarcheurs venaient en France à la pêche aux clients fortunés pour les inciter à ouvrir des comptes dans les discrètes banques helvétiques.
15 avril 2012.
Effectivement, ces soupçons très graves reposent sur des techniques utilisées par l'UBS en France. Pendant 10 ans, une centaine de commerciaux suisses auraient franchi la frontière à la pêche aux plus fortunés, tournois de golf ou dîner gastronomique mondain, pour les convaincre d'ouvrir en Suisse des comptes illégaux et non déclarés. Ainsi, plusieurs dizaines de hauts dirigeants de la banque suisse et sa filiale française sont dans le collimateur de la justice et sans doute quelques clients coupables présumés d'évasion fiscale.
Voilà, pour aller plus loin dans ce dossier, je vous conseille d'aller sur le site de CCFD, le comité catholique contre la faim et pour le développement, qui travaille depuis des années sur ce thème des paradis fiscaux et d'évasion fiscale. Ils ont posé des questions aux deux candidats et il y a les réponses que fait le parti de François Hollande, lui-même, et vous verrez les critiques que fait le CCFD face à ces réponses, un engagement incomplet, disent les auteurs de cette note, de cette feuille, et c'est très passionnant pour comprendre, si vous voulez, avancer dans ce dossier. Alors, on vient d'évoquer les stratégies d'UBS France pour séduire ces personnes fortunées. Voilà une femme que nous rencontrons, qui a voulu absolument rester anonyme. Elle est impliquée dans toute cette affaire et elle était chargée de missions pour organiser chaque année des centaines d'événements mondains, culturels, sportifs, qui réunissaient de façon festive les centaines de clients ou futurs clients français d'UBS. Bon, Catherine, c'est pas votre prénom, mais on va vous appeler Catherine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre activité au sein de la banque ?
Soutenir le business, ça veut dire aider les chargés d'affaires à développer leur portefeuille. C'est à la fois par des brochures, des publications, des relations presse, des événements, des partenariats, mise en place d'un certain nombre d'éléments qui sont dans une stratégie de développement business.
D'accord. Et vous êtes resté combien de temps dans l'entreprise ?
8 ans.
8 ans. Vous en êtes sorti maintenant ?
Absolument.
Et vous avez porté plainte contre la banque ?
Oui.
Vous aimeriez quand même comprendre un peu plus votre boulot, organiser des événements, c'est-à-dire
C'est un métier de RP, un métier de relations publiques. C'est-à-dire que quand vous êtes en gestion privée, vous vendez du sur-mesure. Mmh. Vous vendez à des familles relativement riches l'organisation de leur patrimoine. Donc vous travaillez sur plusieurs générations, vous travaillez sur du long terme. Mmh. Ça veut dire qu'il faut que vous obteniez la confiance de vos clients. Ça prend du temps. Donc pour l'obtenir, il faut que vous puissiez passer du temps avec ces gens-là et leur montrer que vous méritez leur confiance. Mmh. C'est un milieu relativement fermé qui est un petit réseau quand même quelque part. Pour les démarcher, l'idée est de passer du temps avec eux pendant des événements notamment. Vous connaissez vos clients, vous connaissez leurs hobbies, vous connaissez leurs passions, vous connaissez les passions de leurs femmes, de leurs enfants, que ce soit l'équitation, le tennis, le golf, la musique classique, l'opéra. Vous allez faire plaisir à vos clients, puisque ce type de clientèle est tout de même énormément démarché. Donc il faut que vous vous démarquiez, donc trouver des idées nouvelles. Les plateformes événementielles ont été montées notamment pour ça.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'organiser ou d'être présent avec vos clients potentiels dans une chasse à cours,
par exemple,
une vente de charité,
aussi,
une soirée à l'opéra.
Je vois que vous êtes bien renseigné.
Alors on m'a parlé de la finale de Roland-Garros, c'était l'endroit très prisé.
Oui, UBS, une loge à Roland-Garros, depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, c'est un des événements importants. Il faut être présent à Roland-Garros.
Il faut être présent à Roland-Garros, c'est-à-dire que la banque a sa loge à Roland-Garros et y invite ses clients, ceux auxquels elle tient le plus. Tout ça, c'est absolument légal.
Absolument, mais complètement d'accord.
Voilà. Jusque-là, ça va.
Jusque-là, tout va bien.
Jusque-là, ça va.
Ce qui se passe, c'est que, en tout cas, jusqu'en 2008, les chargés d'affaires suisses étaient physiquement présents en France, dans nos bureaux et sur nos événements. Donc, comme disait un de nos anciens collègues, on mélangeait le bon vin et l'ivraie.
C'est ça.
Et donc, on a appris avec l'histoire Birkenfeld, l'histoire de ce chargé d'affaires américain qui est aujourd'hui en prison. On a appris tous, complètement médusés en 2008, que le démarchage des chargés d'affaires sur notre territoire français était illégal. En fait, c'est un chargé d'affaires qu'on ne connaît pas nous en France, mais qui démarchait des clients américains pour monter des sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Mmh. En fait, il s'est dénoncé aux autorités en expliquant ce qu'il faisait. Et on pense que derrière ça, il y a eu un gros conflit avec la banque au niveau d'un bonus.
L'UBS a peut-être des soucis à se faire. Un de ses anciens employés aux États-Unis a reconnu aujourd'hui avoir aidé des Américains à frauder le fisc. Il a plaidé coupable, mais il a surtout chargé sa direction. Il affirme que de telles pratiques étaient autorisées par l'UBS, voire même encouragées.
TSR, 19 juin 2008.
C'est dans ce tribunal de Floride que se joue peut-être l'avenir de l'UBS aux États-Unis. Bradley Birkenfeld, un ancien gérant de fortune de la banque suisse, y est jugé pour avoir aidé un milliardaire américain, Igor Olenikov, à soustraire 200 millions de dollars au fisc. Bradley Birkenfeld plaide coupable et a promis de collaborer avec la justice. Bradley Birkenfeld s'apprêterait à livrer au fisc les noms de milliers de clients américains pour obtenir la clémence de la justice.
À la lumière de cet événement, vous découvrez la vérité, vous êtes seul à découvrir ou vos collègues découvrent en même temps que vous? Vous vous dites, mais attends, c'est incroyable ce qu'on nous fait faire ou ce qui se passe dans notre dos ou...
Je pense que tout le monde est très conscient, mais on vit dans le monde du silence et le monde de la peur, le monde où personne ne parle. Soit vous avez une conscience, vous vous posez des questions, ou vous ne vous en posez pas. La banque, elle a fait un plan social d'une centaine de personnes.
Considérant que cette centaine de personnes étaient trop bien informées,
ou peut-être un peu gênantes,
de conscience.
Et c'est clair qu'il y a un turnover qui est permanent et récurrent, certainement pour ne pas qu'il y ait ni de mémoire d'entreprise, ni de mémoire individuelle.
Vous en êtes où exactement aujourd'hui? Vous avez retrouvé un boulot, vous?
Non, j'ai pas retrouvé de boulot. L'idée était déjà, de me reconstruire, parce qu'on sort pas d'une histoire comme ça indemne. Mm-hmm. Et on se rend compte, au milieu de cette campagne politique, que finalement, il y a des intérêts qui nous dépassent tous, qu'on est juste un maillon de la chaîne, donc c'est lourd, justement, par rapport à un devoir de citoyen, par rapport à une morale de... Voilà, il faut se recentrer, reconstruire. Mmh. J'ai pas du tout envie de retravailler dans une autre banque, j'ai pas du tout envie de retravailler dans le même système, j'ai besoin d'autre chose. Je sors de là un peu abîmé, quand même. Un peu... Meurtri, oui, pas aigri. Il y a des gens qui sont relativement vindicatifs. Moi, je me dis que c'est l'expérience d'une vie. Ça nous tombe dessus et qu'à un moment donné, il faut être capable de se lever contre et en tout cas de tirer un signal d'alarme. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Derrière, il y a une question d'honneur parce qu'effectivement, on a été salis, on a été isolés, on nous a pris pour des fous. En revanche, tout le monde sait qu'on a raison.
Je vous prie de m'écouter. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Je ne suis qu'un pauvre petit banquier qui a une complainte à déposer. Derrière mon costume noir et blanc. C'est plutôt noir que blanc. Je passe
passe mon temps encaissé, les sourires chaînés et les pillés au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus. De plus en plus ma déprime se crédite. Je brasse énormément d'argent qui n'est pas pour moi, évidemment. Ma vie n'est qu'un compte courant. Je le cours après tout le temps. Au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus. De plus en plus ma déprime se crédite.
Xavier Harel, comment ça se passe à l'étranger? Parce qu'on est là en France, mais comment fait-on aux États-Unis ou dans d'autres pays européens par rapport à ce phénomène des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale?
Aujourd'hui, ce qui est mis à jour avec le scandale UBS a été mis à jour concernant des contribuables américains qui avaient des comptes non déclarés en Suisse, il y a 2-3 ans, sur la base de témoignages d'un ancien salarié d'UBS qui a choisi de collaborer avec la justice américaine et qui a démonté l'ensemble du système. Et c'est le même principe. On organise des événements extrêmement mondains et chics, et puis on vient démarcher en toute illégalité, puisque c'est interdit, des clients pour leur proposer d'ouvrir des comptes offshore.
Alors, et la lutte contre
contre les paradis fiscaux. Alors, il y a plusieurs aspects. Si on prend le cas des particuliers, il y a ce qui a été fait au niveau du G20. Donc, c'est ces fameuses listes noires, puis grises, puis blanches, puis disparues. Enfin, bon, le principe étant de, si vous êtes un paradis fiscal et vous signez 12 conventions d'échange d'informations, c'est-à-dire l'administration fiscale d'un pays peut vous demander des informations sur des comptes ouverts chez vous. Eh bien, vous ne figurez plus dans cette liste et donc vous n'êtes plus considéré comme un paradis fiscal. Le résultat, c'est qu'un pays comme le Liechtenstein, par exemple, qui est un paradis fiscal parmi les plus nuisibles de l'Europe, eh bien, a signé sur les 12 conventions, 9 conventions avec d'autres paradis fiscaux, notamment avec Monaco. Donc, ça peut être assez cocasse d'imaginer l'administration fiscale de Liechtenstein, des informations à l'administration de Monaco sur un éventuel client qui aurait caché des comptes à Monaco. Donc cette liste est une blague, ça n'a produit quasiment aucun effet. Valérie Pécresse l'a expliqué récemment, ils ont fait un test grandeur nature sur la base de ces conventions d'échange d'informations qui ont été signées. Ils ont envoyé 230 demandes d'informations à la Suisse, à Jersey, à tout un tas de paradis fiscaux. Le résultat, elle a dû le constater sur pièce et elle a fait une conférence de presse pour l'expliquer, eh bien, c'est que les paradis fiscaux ne répondaient pas ou alors renvoyaient de l'information dont on disposait déjà, c'est-à-dire l'information qui était contenue dans la question. Donc ces conventions d'échange d'informations ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans un système très dilatoire, on gagne du temps, on ne donne pas les informations et puis on attend que l'orage passe. Ce qui en revanche fonctionne, c'est ce que est en train de faire Barack Obama aux États-Unis. Barack Obama est sensible à la question de l'évasion fiscale et au problème de l'industrie offshore. Depuis pas mal de temps, c'était un sujet qui lui tenait déjà à cœur lorsqu'il était sénateur et qu'il a mis en œuvre une fois président. Aujourd'hui, il y a un bras de fer extrêmement musclé, extrêmement violent entre la Suisse et les États-Unis. Ce qu'imposent les États-Unis, eh bien, c'est que désormais les banques suisses auront pour obligation systématique de déclarer un client ouvrant des comptes en Suisse, un client américain ouvrant des comptes en Suisse. Si elles s'y refusent, eh bien, elles ne peuvent pas exercer aux États-Unis. Ce qui est compliqué pour une banque de se passer de sa présence dans la principale place financière du monde.
Barack Obama, entouré de son secrétaire au Trésor et du chef du fisc américain, l'image est claire, les États-Unis sont en guerre contre l'évasion fiscale.
TSR, 4 mai 2009.
Si les institutions financières ne collaborent pas avec nous, nous présumerons qu'elles cachent de l'argent dans des paradis fiscaux et nous réagirons en conséquence. Et pour être sûr que le fisc ait les outils nécessaires pour faire respecter nos lois, nous allons embaucher 800 nouveaux agents pour détecter et poursuivre les Américains qui fraudent le fisc à l'étranger.
La France pourrait avoir la même position. La France est un grand marché. La France est une place financière importante.
Par exemple, si
la France pourrait avoir un discours beaucoup plus musclé avec la Suisse. Oui. L'Allemagne aussi.
Oui, si un président socialiste était élu en France, peut-être que il pourrait avoir cette idée-là.
Peut-être qu'il pourrait l'avoir. Ce n'est pas
peut-être les paradis fiscaux. Mais s'il en a parlé, par exemple.
Non, pour l'instant, il est resté assez.
Monsieur le sénateur communiste.
Sur le sujet.
Non, effectivement, vous avez raison. Ça veut dire que c'est un vrai sujet politique au sens noble du terme. Il faut rendre ce sujet sujet populaire, il faut que tout le monde s'en empare.
Mais c'est un sujet populaire, je suis sûr que tout le monde dit mais c'est absolument scandaleux, c'est dégueulasse.
Ah, mais tout le monde est scandalisé, même à la commission d'enquête au Sénat, tout le monde est scandalisé d'entendre ce qu'on entend. Mais il faut que les gens s'emparent de ce sujet, il n'y a que ça qui fera bouger les lignes, effectivement. Il faut, si on ne s'attaque pas à cette domination planétaire de la finance, on va rien régler. Ça se fait pas en deux mois, hein, on est bien d'accord, mais il faut commencer le processus. Et le processus, c'est d'abord un processus citoyen. Il faut que les gens prennent conscience, il faut porter à connaissance des gens cette réalité que je suis en train de découvrir de semaine en semaine.
Antoine Payon. Je voulais juste dire une chose sur le débat précédent à propos de la lutte contre les paradis fiscaux. Mmh. Il y a bien sûr l'OCDE, les listes grises, les listes noires et tout ce que vous voulez. Mais il y a tout simplement la justice. Et en France, j'ai sous les yeux la note qui a été envoyée, la note de synthèse qui a été envoyée par plusieurs cadres supérieurs de la banque UBS à l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France. C'était en décembre 2010, et donc pas hier, dans lequel, sur une dizaine de pages, vous avez la description extrêmement détaillée de ce système d'évasion fiscale, avec tous les noms des dirigeants et tous les noms des bénéficiaires, en tout cas un très grand nombre. C'est cette note qui, in fine, parce que insistance des cadres en question auprès de l'autorité contrôle prudentiel, a généré une enquête préliminaire ouverte par le parquet seulement en mars dernier, mars 2011. Il a fallu quand même un certain temps. J'ai sous les yeux les comptes, les mouvements des comptes de Liliane Bettencourt, qui ont été transmis de la même façon aux mêmes autorités. Les comptes Climen 512-82-92, la fondation BS 510-96-39. Tout le détail de ces comptes et des mouvements de ces comptes, qui sont des mouvements d'évasion fiscale, de recel d'évasion fiscale et de blanchiment, ont été transmis aux autorités de contrôle et aux autorités judiciaires à la même époque. Eh bien, ça n'a rien produit au niveau judiciaire. C'est là qu'il y a le vrai défaut. Le vrai défaut de contrôle. Il n'est pas tant dans les discours internationaux, les listes de l'OCDE. Il est dans la possibilité du travail, tout simplement, de la police et de la justice. Il a été interdit, en France.
Vos sources vous l'ont dit, c'est-à-dire que les gens de la brigade financière, de Tracfin, etc., vous ont précisé, vous ont raconté tout ça.
Mais bien sûr. Eux-mêmes, et ensuite, quand j'ai recoupé les sources internes à la banque. Et non seulement ils me l'ont dit, mais ils m'ont donné les documents, je les ai sous les yeux.
Donc tout est bloqué au niveau du parquet, en somme.
Tout a été bloqué au niveau du parquet.
Par qui ?
Par la haute hiérarchie de ce parquet, on appelle ça un procureur, c'est le procureur de Paris, et par le garde des Sceaux, en conséquence. Un magistrat, encore tout récemment, du parquet de Paris, m'a expliqué comment fonctionnait la chaîne de commandement. On peut pas appeler ça autrement.
Oui.
Eh bien, des magistrats du parquet de la section financière mènent leur enquête. Ils en instruisent immédiatement le procureur, qui fait rapport immédiatement au garde des Sceaux et qui, pour les affaires les plus sensibles, fait son rapport à l'Élysée. Et ensuite, il y a la descente. Eh bien, il y a l'ordre ou non de faire instruire par un juge d'instruction l'affaire ou de ne pas la faire instruire. En l'occurrence, l'ordre a été clair, il s'agissait de mettre au coffre-fort, c'est la terminologie des magistrats du parquet de Paris, l'affaire de l'évasion fiscale organisée par UBS.
Xavier Harel.
Oui, et ce n'est pas un cas isolé. Le parquet en France, c'est un vrai problème. Enfin, la dépendance directe du parquet vis-à-vis de la chancellerie et de l'Élysée est un véritable problème, ce qui fait qu'il y a énormément d'affaires sensibles qui sont étouffés de cette façon.
Encore une fois, tout ça est bien choquant, il faut dire les choses, au moment où on nous fait accepter des coupes dans les budgets sociaux, dans les budgets publics, dans la santé, dans l'éducation, et on se doute que ça va être ces coups de rabot et ces coups de ciseaux vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus cruels, et on nous les fait accepter. On nous dit, voilà ce qu'il faut, on peut pas faire autrement, que voulez-vous, c'est la crise, et vous apportez quand même quelques éléments qui remettent en question cette conviction. Je vous remercie tous les trois. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci à tous. Je voulais dire, on a dit, il faut rendre ce sujet populaire. Rendre ce sujet populaire, ça passe par les médias. Or, les médias sont souvent gênés
aux entournures pour traiter de ces sujets. Car il faut rappeler que certains grands médias sont entre les mains de grandes entreprises ou de grandes fortunes, Bolloré, Lagardère, Dassault, Rothschild, des banques, des entreprises qui sont souvent impliquées dans l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, d'où la frilosité de certains journalistes et de certains médias. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Merci à tous. L'argent, il y en a. C'était le deuxième volet. Entretien avec Antoine Payon, Éric Bocquet, Xavier Harel. Les 600 milliards qui manquent à la France, c'est le bouquin d'Antoine Payon. La grande évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux, c'est de Xavier Harel. Les liens qui libèrent. C'est l'éditeur. Et puis un bouquin très intéressant de Nicolas Saxon, chez André Versailles éditeur, Les paradis fiscaux, enquête sur les ravages de la finance néolibérale. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission également sur le site la-ba.org, vous pouvez réécouter et faire des commentaires. Et puis, il y a aussi notre page Facebook à la technique aujourd'hui. Claudine Lapersonne et Cédric Lalanne, Bertrand Chometon et Franck Adéraire ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grigory Solomonovic. J'attends vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 0156 40 37 37. D'ici à lundi, il va se passer un certain nombre d'événements dans notre pays et j'espère que vous nous en ferez part sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Réclame.
France Inter présente Barbara, un film de Christian Petzold, Ours d'argent au Festival de Berlin, actuellement au cinéma. Été 1980 en Allemagne de l'Est, Barbara, chirurgien à Berlin, est soupçonnée de vouloir passer à l'Ouest. Elle est mutée par les autorités en province. Et tandis qu'elle prépare son évasion, elle est troublée par l'attention que lui porte André, son médecin-chef. Est-il amoureux d'elle ou est-il chargé de l'espionner? Retrouvez Barbara de Christian Petzold dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Nora Jones. Little Broken Hearts. Trying to make it so I never see your face again. Nora Jones affiche complet le 25 mai à l'Olympia. Retrouvez Nora Jones et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Ah, lundi, 15h pour là-bas, si j'y suis, dimanche soir pour la fête. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut!
L'UMP ne s'en remet toujours pas. Ainsi, Jean-François Copé évoque la défection lamentable de François Bayrou. François Bayrou qui a annoncé qu'il voterait François Hollande. Le patron de l'UMP s'exprimait devant des militants dans un très chic restaurant du 16e arrondissement de Paris. C'est la nouvelle illustration qu'il n'y a pas de centre fort. Analyse Jean-François Copé qui a aussi critiqué les journalistes. Ils nous prennent le pouls et demandent à quelle heure sont nos obsèques. Pour François Fillon, il s'agit d'une vraie erreur. En tout cas, c'est décevant, a déclaré le Premier ministre. Entre métallos et gardes de sécurité dans les locaux de l'usine ArcelorMittal de Florange. En début d'après-midi, des métallos ont fait irruption dans une salle des bureaux. Se tenait un comité d'entreprise extraordinaire. Dans la bousculade, un ouvrier est tombé dans un escalier et s'est blessé. Dans la matinée, quelques dizaines de syndicalistes de la CFDT, CGT et FO avaient une nouvelle fois bloqué pendant plusieurs heures les expéditions de la Syrie pour obtenir le redémarrage des hauts fourneaux à l'arrêt depuis octobre. Les protestataires craignent la mort programmée du site. Une centaine de CGTistes a envahi ce matin le siège de l'APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, protester contre les suppressions de postes et dénoncer le manque de dialogue social. Après discussion, la direction leur a proposé une séance de négociation pour le 11 mai. Les protestataires ont quitté les lieux. Nouvelle action des policiers à Paris, des policiers qui soutiennent leurs collègues, mis en examen pour homicide volontaire. Après avoir tué un multirécidiviste en fuite, ils ont envahi les Champs-Élysées avant d'être refoulés par les gendarmes. Outre cette affaire, les policiers en ont assez. Ces rassemblements, qu'ils disent spontanés, expriment tous un ras-le-bol et un malaise récurrent depuis des années. L'affaire du double meurtre d'un couple français de restaurateurs à Touléar, au sud-ouest de Madagascar, la police locale annonce aujourd'hui avoir interpellé deux Français. L'un d'eux serait un ami de Gérald Fontaine, tué en avril avec sa compagne sur une plage des environs. Ils sont entendus en ce moment. La police a déjà arrêté 6 personnes dans cette affaire. 5000 euros d'amende pour EasyJet. La compagnie aérienne à Bakou a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir débarqué une passagère handicapée qui voyageait sans accompagnateur. Elle se déplaçait en fauteuil roulant et avait déjà fait le trajet sans problème la veille. Jugée coupable de discrimination, EasyJet devra en outre verser 5000 euros de dommages et intérêts à la passagère et 4000 euros à l'association des paralysés de France, partie civile au procès. Adlan Hischer, un physicien franco-algérien détaché au CERN de Genève, a été condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel. Il avait échangé des courriels équivoques avec un responsable présumé d'ACMI. Il a déjà accompli 2 ans et demi de détention provisoire depuis son arrestation. En raison du jeu des remises de peine, il devrait sortir assez prochainement, selon son avocat. Et puis, collision entre un bus et une voiture ce matin à Versailles. Le choc a été très violent. 15 personnes ont été blessées, dont 2 sérieusement, mais leur pronostic vital n'est pas engagé.
Dimanche, élection présidentielle, 2e tour. La rédaction de France Inter se mobilise et vous propose une soirée spéciale.
Retrouvez-nous dès 18h30 pour le second tour de l'élection présidentielle.
Hélène Jouan.
Participation, campagne de l'entre-deux-tours.
Frédéric Barrère.
Jean-François Killy fait le point avec ses éditorialistes.
20h, un nom, un homme, un président, pour faire quoi et avec qui?
Directs et reportages, réactions à l'étranger, analyses et commentaires avec nos politologues et Patrick Jarreau du journal Le Monde.
Et des débats avec nos invités, quelles alliances pour quelle majorité pour ce nouveau quinquennat.
Élection présidentielle, 2e tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Le Point, avec Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter.
La différence.
Il y a 16h04 ce vendredi, c'est Quand la musique donne avec Didier Varro.
J'ai l'impression de ne plus vous quitter.
Mais oui, on se revoit sans arrêt.
À 17h pour d'autres informations.
À 17h.
C'est parti.
Quand la musique donne.
Rock, musique électro, techno.
Chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment. C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Paris. Il est né à Paris. Elle est fille d'une chanteuse qui deviendra animatrice de radio avec l'art et la manière. Il est fils d'un coupeur de fourrure et d'une comptable dans la confection. Elle voulait être comédienne et a fait ses classes sur la scène nationale de Poitiers. Il a fait ses classes dans le punk et il a si bien incarné le garçon sauvage de Marc Dufault. Elle écoutait en boucle « Dépression au-dessus du jardin ». Il s'est révélé le jour où il a découvert Elvis. Elle a rencontré son destin dans une crèche pour enfants. Il a forgé son destin en volant les numéros de Best au kiosque à journaux de la Place Blanche. Elle a bu les vers de Racine, cru en l'intranquillité de Pessoa, et s'est incarnée avec la poésie de Verlaine. Il a peuplé sa vie en zigzag de Ginsberg, Elvis, Kerouac, Coltrane, tous les hommes qui se sont ouverts comme les fleurs du mal. Elle a en elle quelque chose de George Sand, il a en lui quelque chose de Jean Genet. Elle a compris l'essentiel lorsqu'elle a lu que c'est la deuxième œuvre qui fait une artiste. Il a compris l'essentiel lorsqu'il a réalisé qu'il était vivant, bien plus que survivant. Elle sait que mademoiselle et liberté sont deux notions qui vont si bien ensemble. Il sait le prix de la douleur, de l'héritage, d'une vie qui doit intégrer jusqu'au bout le génocide. Elle chante ces mots qu'on ne dit pas pour que le printemps revienne. Il chante « Je suis né en mai ». C'est moi, le printemps. Elle est d'humeur viscéralement passagère. Il dit qu'il est un fugitif et qu'il faut donc se dépêcher. Elle pourrait dire comme Léo Ferré, le bonheur, c'est du chagrin qui se repose. Lui non plus. Parce que même enfant, il faisait semblant d'être heureux. Elle est auteur et interprète. Il est auteur, compositeur, interprète. Elle s'appelle Berry, il s'appelle Daniel Darc. Deux initiales pour deux noms. Berry, Daniel, BD. Non, il ne sera pas question de bande dessinée cet après-midi. Mais c'est bien Daniel Darc et Berry qui se rencontrent sur France Inter. Notre endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Berry.
Bonjour.
Bonjour Daniel Darc.
Bonjour.
Vous vous connaissez bien. Vous vous connaissez même très bien.
C'est chouette.
Alors, des fois, je fais des mariages avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Là, je fais une sorte de pax en continu avec Berry et Daniel Darc. Rituel de l'émission, une petite question comme une mise en jambe. Berry,
qu'est-ce qu'on pourrait
poser comme question à Daniel Darc à 16h07 sur France Inter?
Alors c'est une question, je l'ai souvent écouté me parler de Dieu et je réfléchissais en venant ici et je me disais, mais à quoi, quelle tête il a Dieu pour toi? Comment tu te le représentes?
Je sais pas, je pense que c'est une tête de femme noire avec un point levé à côté. Je vois bien ça.
J'étais sûre que je m'y attendrais pas.
C'est vrai qu'il parle souvent de Dieu.
Ouais. C'est vrai.
On va y revenir peut-être avec Daniel.
Il était faux, je te parle d'autre chose.
C'est vrai aussi. Il ne parle pas que de ça.
Daniel Darc, qui connaît bien Berry également, une petite question comme ça.
Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être mes doutes à moi qui ont nourri cette question. Mais si tu avais maintenant 15 ans, que tu commençais à faire ce qu'on fait, enfin ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, parce que, est-ce que tu prendrais, tu crois, est-ce que tu crois que ce serait toujours la musique, le médium que tu choisirais maintenant?
C'est ce qui m'a le plus comblée depuis que je suis née, en tout cas, ce médium-là pour exprimer des choses.
D'accord. Alors que, au départ, vous vous destiniez à une carrière de comédienne, en tout cas une trajectoire de comédienne.
Je ne savais pas que j'aimais chanter, que j'aimais écrire, mais je ne savais pas, ni même que je pouvais le faire, mais je ne savais pas que j'adorerais ça.
Ouais.
Je ne chantais pas sous la douche non plus.
Ouais. Et Daniel Darc, est-ce qu'il savait qu'il chanterait?
Ben moi,
avant d'être punk,
je prenais pas de douche. Non. Je voulais être guitariste. J'aurais voulu être guitariste, mais j'ai jamais su jouer assez bien pour ça. J'ai commencé à écouter, comme tu l'as dit, Elvis, tout ça. Donc pour moi, c'était un petit peu sacré, quoi. On pouvait pas chanter comme ça. Il a fallu effectivement que le punk arrive pour que je... Non, je voulais être romancier, moi, au départ. Je voulais juste être romancier.
Il y a ce truc-là qui taraude Daniel Darc, l'écriture. Il y a toujours un carnet, un stylo pas loin. Et puis, il y a toujours ce roman qu'on attend de Daniel Darc.
Pardon, ça, c'est foutu.
C'est foutu?
Ouais, c'est foutu. Ou alors, peut-être un jour, mais je veux pas refaire... Gary. Je vais pas refaire Gary, mais si un jour j'arrive à faire un roman, je le sortirai sous un autre nom et vraiment je m'arrangerai pour que personne ne sache.